Merci Alexis de Meyer. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau flash à 16h. Bonjour et bienvenue dans le magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Elles peuvent être suaves, ténébreuses, stridentes ou éraillées, mais chacune d'elles est unique au monde. À quoi tiennent les spécificités d'une voix? De quelle manière se transforme-t-elle au cours d'une vie? Et comment prendre soin de nos cordes vocales? Nous allons en parler avec notre invité, le docteur Jean Habitbol, dans un instant. Vers 15h45, dans la revue d'actu de la semaine, Mathieu Novak reviendra sur le tremblement de terre qui a secoué le sud-est de la France lundi dernier, et Philippe Hénarejos nous racontera comment une étoile est en train de se faire expulser de notre galaxie. En deuxième heure, nous partirons à la découverte des arbres de nos régions et de leurs capacités insoupçonnées avec le passionné de nature Georges Fetterman. Et en fin d'émission, nous mettrons le cap sur la Patagonie avec le géologue Richard Maire. Il nous racontera l'expédition qu'il a menée dans un endroit au paysage unique, l'île Madre de Dios. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
La voix sublime de Maria Callas pour ouvrir cette émission sur la voix, enregistrement réalisé à l'Opéra de Paris en 1958. Elle chantait la Tosca de Puccini. Bonjour Jean Habitbol.
Bonjour.
Vous êtes otorhinolaryngologiste phoniatre et vous venez de publier La belle histoire de la voix aux éditions De Buch. Vous évoquez dans votre ouvrage La voix de la Callas. À quoi tient la beauté de cette voix unique?
Alors la Callas, c'est passionnant pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est une femme qui ne s'aimait pas, qui en 1952 se regardait dans un miroir, se trouvait trop grosse, elle avait des lunettes, elle ne s'aimait pas du tout. Et elle a perdu 35 kilos entre 1952 et 1954. Et tout le monde s'est dit, c'est terminé, elle a maigri, elle pourra plus chanter. Et en 58, on a écouté cet extrait superbe de la Tosca, de la Callas, de Maria Callas. Mais on sent dans cette voix des cicatrices de la vie. On sent cette vibration, cette souffrance intérieure, et on sent cette fragilité. Et c'est ça qui est superbe par rapport à Renata Tebaldi, qui était quelque part un duel, qui était un duel à très haut niveau, puisque ils chantaient pratiquement les mêmes choses, l'une à New York, l'autre en Italie. Et Renata Tebaldi, elle était complètement protégée par sa mère, alors que la Callas était presque brimée. Et c'est l'histoire de cette femme qui, à la cinquantaine, bientôt nous quittera, et cette souffrance, on la sent toute sa vie. C'est pour ça que quand elle monte comme ça dans les aigus, on attend presque la faute. La cruauté du public, c'est dire à quel moment elle va tenir. Alors, cette fragilité nous passionne et nous touche beaucoup plus sur le plan émotionnel.
Alors, vous nous donnerez, dans la suite de cette émission, des conseils pour prendre soin de notre voix, même si la fragilité qu'elle dégage peut aussi émouvoir. Mais d'abord, voyons comment elle fonctionne, cette voix. Nous produisons notre voix avec un instrument à cordes ou à vent?
Alors, c'est le seul instrument que Dieu a créé qui est à cordes et à vent. C'est-à-dire qu'on a deux cordes vocales et non pas 54 notes comme sur le piano. Et ces deux cordes vocales vibrent au niveau du cou, à l'horizontale, juste en arrière de la pomme d'Adam chez l'homme et la pomme d'Ève, si je puis dire, chez la femme. La puissance de la voix, c'est le souffle pulmonaire. La vibration, ce sont les deux cordes vocales qui s'allongent dans les aigus, qui se raccourcissent dans les graves, 2 cm chez l'homme, 18 mm chez la femme. Et enfin, la caisse de résonance, c'est ce qu'il y a juste au-dessus des cordes vocales qui va jusqu'au niveau du nez. Et si je vous dis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien évidemment, mes cordes vocales sont les mêmes. Ma respiration est la même. Mais la caisse de résonance a changé. Si je prends un violoncelle ou je prends un violon alto ou un violon soprane, même avec les mêmes cordes, la même note, la caisse de résonance aura changé le timbre de la voix. Or, le timbre, c'est la signature d'une voix. C'est complexe, donc on a un instrument qui est un instrument comme un violon, il y a un archer qui va faire glisser sur la corde le violon. Eh bien, cet archer, la main qui le conduit, c'est l'émotion, c'est l'affect de l'artiste.
Est-ce que les autres mammifères ont aussi des cordes vocales ou c'est une spécificité que nous, humains, nous avons?
Non, les autres mammifères ont également des cordes vocales.
Alors pourquoi ils n'ont pas de voix?
Alors, à cause des cases de résonance. Tout simplement, on va prendre un exemple très simple. L'homme, avec un grand H, je précise, possède à la puberté au niveau des cordes vocales qui sont un muscle comme le biceps, mais très petit, comme on vient de le dire, avec un épithélium. C'est la peau qui assure la corde vocale. Mais quelque chose d'exceptionnel. La corde vocale de l'homme à la puberté a 3 couches d'épithélium, comme si on avait 3 couches de peau. C'est le seul mammifère qui a ça. Le seul primate. Le singe ne l'a pas. Et cette 3e couche va lui donner un timbre particulier. Premier élément. 2e élément, le larynx va descendre de la 1re vertèbre cervicale, donc dans le cou, à la 5e vertèbre cervicale. Ça se fait entre l'âge de 1 jour et l'âge de 18 mois. C'est la raison pour laquelle le nourrisson peut respirer et avaler en même temps. Il va téter le sein de sa mère pendant 1 heure, s'il veut, mais il n'aura pas de problème de respiration. C'est ce que font toutes les animaux de la jungle qui vont aller laper au niveau de l'eau et peuvent surveiller pour voir si on va les piéger par les prédateurs. Et l'homme ne peut plus faire la même chose à partir de l'âge de 2 ans. Et donc la voix est en partie due à sa descente du larynx, mais pas seulement. Parce que si vous n'entendez pas bien, la voix est pilotée par l'oreille. C'est l'oreille qui va piloter. Cette oreille va piloter 2 choses. La première, c'est la voix dans votre timbre, dans votre puissance, dans votre tonalité. Mais la seconde, c'est que vous vous entendez vous-même parler, quand vous parlez. Et la voix que vous émettez est une vibration de l'intérieur de vous-même, que vous entendez, et qui va passer de vos lèvres vers l'extérieur pour arriver sur le tympan.
Alors le fait que nous parlions ne tient pas uniquement à des considérations anatomiques. Vous relatez dans votre ouvrage une expérience très cruelle, mais parlante. Elle a été réalisée par l'empereur Frédéric II au XIIIe siècle. Qu'a-t-il fait ?
Alors c'est une expérience cruelle, impressionnante. C'est un empereur qui était d'une culture importante et j'allais dire rare. Il savait parler 7 langues, le germanique, le français, l'italien, le latin et j'en passe. Et il s'est posé la question, est-ce que la voix originelle que nous avons à la naissance, est-ce qu'on l'a quand on va naître parce que Dieu nous l'a donnée, tout simplement ? Ou est-ce qu'on va l'acquérir avec le temps ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des nouveau-nés, les serfs de l'époque, qui étaient des petits bébés, il a pris les bébés de ses servants, et dès l'âge de 3 jours à 10 jours, il les a mis dans des chambres différentes. Ce détail est fondamental, ça nous est rapporté par un journaliste de l'époque. Il les a isolés, et il a demandé, donc, entre guillemets aux infirmières, mais aux autres servants, de leur donner à manger sans parler. D'être habillés d'une façon extrêmement stricte, presque comme un mammifère, mais sans aucune voix parlée. Et jusqu'à l'âge de 3-4 ans. À 4 ans, on leur a demandé, plus d'une 30aine d'enfants, de sortir et de se mettre à parler. Aucun d'eux ne pouvait parler. Aucun son n'était émis, si ce n'est des grognements.
Alors qu'ils étaient, évidemment, anatomiquement, ils étaient capables, normalement, de parler.
Absolument, ils étaient capables de parler. Le larynx était descendu, au niveau de la 5e vertèbre cervicale. L'oreille était là. Tout était là pour la voix. Mais la voix, c'est pas seulement physique. La voix est un élément fondamental dans le monde de la sociabilité de l'être homme. Et également, chez ces enfants, ils sont tous morts débiles profonds entre l'âge de 10 ans et 12 ans. Signifie-t-il que la voix est indispensable à la vie ? Non. Mais le côté sociable de l'être humain est indispensable à sa survie. Et j'en veux pour preuve que quand on isole des gens qui ont 85, 90 ans et qu'on les laisse dans des mouroirs, c'est le mot, parce qu'ils n'ont plus de contact avec les autres.
Toutes les voix sont uniques, il n'y a pas 2 voix identiques sur tous les hommes et toutes les femmes à la surface du globe.
Absolument. Toutes les voix sont une signature vocale. Cette signature vocale, même chez les jumeaux, les vrais jumeaux, on se trompe, mais il y a quelques éléments qui nous permettent de les distinguer. Et chacun a une voix unique sur 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. À tel point qu'aujourd'hui, on se pose la question, on avait l'œil qui donne l'identité de l'individu, on se pose la question de l'identité de la voix.
En quoi les cordes vocales féminines diffèrent-elles de celles des cordes vocales masculines ?
Alors, les cordes vocales féminines et masculines vont se différencier, bien évidemment, à la puberté. Alors finalement, la voix est-elle chromosomique, XX pour la femme, XY pour l'homme, ou est-elle hormonale ? Est-ce que les hormones vont influencer une voix de femme, une voix d'homme ? D'où nous vient la preuve ? La preuve a été faite sans aucun élément scientifique, mais d'une façon tout à fait pragmatique, j'allais presque dire, c'est les castrats. c'est l'exemple que nous connaissons bien évidemment de ce superbe film Farinelli. Est-ce que Farinelli avait une voix de femme? Non, il avait une voix d'enfant. Donc finalement, les chromosomes vont donner la voix sexuée, certes, mais ça ne suffit pas. Si on castre un enfant mâle avant la puberté, à ce moment-là, les hormones mâles n'ayant plus d'action, la voix devient la voix d'un enfant et pas la voix d'une femme. Donc, la voix féminine est une voix dans laquelle il y a très peu d'imprégnation d'hormones mâles et la voix masculine a une imprégnation très forte en testostérone. Mmh. Et qui va donner la musculation de la corde vocale et muscler la totalité des éléments autour de cette corde vocale.
Je vous propose d'écouter la voix justement du dernier castrat Alessandro Morsky qui a vécu au début du XXe siècle. L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé en 1902 au Vatican. Jean Habitbol, oui. La voix du castrat a ceci de particulier que c'est ni une voix classique de femme, ni une voix classique d'homme, ni une voix d'enfant.
Oui.
Qu'est-ce qui donne cette particularité à la voix de castrat?
Alors ça, c'est passionnant. Parce qu'effectivement, il aurait dû garder sa voix d'enfant. Mais n'oublions pas que ses chromosomes sont XY. Donc il ne faut pas oublier que la seule chose qu'on a enlevée quand on va les castrer, donc au niveau testiculaire, donc on a enlevé la testostérone à très forte dose, mais on ne touche pas aux autres hormones qui vont être influencés par XY, l'hormone thyroïdienne et l'hormone de croissance. Donc la puissance pulmonaire vient de l'homme. La caisse de résonance, elle est masculine, mais la hauteur de la voix avec les cordes vocales est une hauteur de voix de l'enfant. Et c'est cette espèce de chimère de cette voix qui est entre l'homme et la femme et qui nous met quelquefois mal à l'aise. La preuve en est, c'est que dans Farinelli, les voix aiguës, on a pris une voix d'homme, et la voix grave, on a pris une voix de femme pour donner cette impression de chimère.
D'ailleurs, entre voix d'homme et voix de femme dans le chant lyrique, parfois ça se rejoint, ça se confond avec des chanteuses qui descendent dans les graves ou des chanteurs qui montent dans les aigus. Par exemple, là, selon vous, est-ce un homme ou une femme qui chante ? C'est pas évident, hein.
Moi, je dirais que c'est un homme qui chante.
Non, c'est une femme. C'est Nathalie Sutzmann, une contralto dans un extrait d'Andromeda de Vivaldi. Alors, c'est la fille d'un père baryton et d'une mère soprano. Et qu'est-ce qui lui permet d'atteindre ainsi les basses?
Alors, c'est très intéressant que ce soit une contralto et que ce soit une voix de femme. C'est intéressant dans la mesure où là, vraisemblablement, le côté physique, je ne connais pas du tout cette, cette passion, je ne connais pas du tout cette chanteuse, pas du tout. Mais la conformation doit être un coup assez long, doit être quelqu'un de relativement grand et qui ensuite peut créer une caisse de résonance qu'on voit chez les barytons et chez les basses profondes, où la caisse de résonance est extrêmement grande. Et un peu comme le violoncelle, à ce moment-là, on peut descendre dans les graves. Ouais. Et donc, quelque part, c'est un don de la nature qu'elle a, c'est sa conformation anatomique qui lui a permis une chose rare, c'est d'avoir des vrais graves, et pas des graves qui viennent derrière les aigus. Ouais. Parce que le propre de la voix de l'homme, c'est d'avoir des graves quand je vous parle, mais d'avoir les aigus qui donnent l'écrin de la voix. Et chez la femme, elle a d'abord des aigus, et l'écrin vont être les graves. Alors que là, on est inversé, on est un peu troublé.
Oui, alors, le même passage de ce qu'elle chantait, de Vivaldi, chanté par un homme cette fois. La voix du contre-ténor Philippe Jarouski, alors d'ailleurs qui vient de rentrer au musée Grévin, on l'a appris cette semaine. Il y a une technique particulière pour un homme pour atteindre les aigus de cette manière-là?
J'ai la chance de le connaître et c'est un artiste remarquable qui passe en voix de tête. Voix de tête, c'est-à-dire qu'il bascule son larynx vers le haut et il chante avec uniquement sa voix de tête et il y arrive en pleine puissance, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'il arrive à donner la puissance de la voix suffisante pour être à l'aise au niveau des suraigus, comme on dit, mais garder ce timbre vocal qui lui est propre et qui est sa signature.
Ça demande un entraînement particulier. Ça veut dire que nous, on n'arriverait pas à tenir cette voix très longtemps.
Alors, c'est exactement cela. On peut le faire, mais c'est à tenir. Un registre vocal, c'est un registre, c'est-à-dire la hauteur de la voix, par exemple ténor, contre-ténor, basse, baryton, par exemple. Eh bien, le registre vocal, c'est là où vous êtes à l'aise pour chanter. Mais on peut tous monter dans les aigus, mais ce qu'on ne peut pas faire, car la nature vous l'a imposé, c'est descendre dans les graves. Le plus grave que vous pouvez faire aujourd'hui, vous ne pourrez pas descendre plus bas. En revanche, avec de l'exercice, vous pouvez monter dans les aigus, car monter dans les aigus, c'est étirer la corde vocale. On fait un peu comme le grand écart, si vous voulez. Mmh. Et à un moment donné, ben effectivement, on risque de la blesser, cette corde. Mais on peut y arriver. Quelques secondes, quelques minutes, mais ça ne veut pas dire chanter. Mmh. Ça veut dire rentrer dans la performance, ce qui n'est pas la même chose.
C'est un cri, et on peut abîmer les cordes vocales.
Alors on peut, bien sûr, comme un claquage. On peut faire un claquage de la corde vocale lorsqu'on, par exemple, on ne parle pas pendant une heure, et brutalement, on va se mettre à hurler après quelqu'un. Et à ce moment-là, on peut faire un hématome, dire que la corde vocale étant un muscle, il y a des petites fibres musculaires qui vont se déchirer, faire une petite poche de sang. La différence, c'est que sur un muscle que vous avez, ça va se résorber. Au niveau de la corde vocale, ça peut créer un polype hémorragique de la corde vocale.
Alors, vous nous avez dit, il y a quelques instants, que les hormones ont une influence sur la voix au cours de la vie, et même de façon cyclique. Parmi les patients qui sont venus vous consulter sur leur voix, certains vous ont donné envie de mener des recherches. C'est le cas notamment avec une patiente. Il y a une trentaine d'années, une enseignante en école maternelle, je crois, vient vous voir, vient vous consulter, parce que sa voix se casse régulièrement depuis 10 ans.
Grâce à ce groupe de patientes, c'est les institutrices de l'école maternelle. C'est un biais de diagnostic, parce que c'est un pool particulier. Elles chantent et elles parlent avec des enfants qui ont une voix aiguë. Donc, elles jouent le rôle de chanteuse et elles jouent le rôle de la voix chantée. Et ces femmes-là sont obligées de donner beaucoup. C'est assez extraordinaire, parce qu'elle se donne complètement. Et là, effectivement, j'ai eu un groupe d'institutrices pendant quelques années qui venaient me voir juste avant les règles. Je me disais, c'est psychologique, avant les règles, c'est normal. Et puis j'ai eu l'idée complètement folle, c'est d'aller faire un frottis des cordes vocales, comme on fait un frottis au niveau du col de l'utérus. Et j'ai montré ça à un de mes maîtres, aujourd'hui il aurait 110 ans, il s'appelait le professeur Debrux, qui avait mis en place les frottis du col de l'utérus dans les années 60, et j'ai montré les deux frottis sans lui dire ce que c'était. Et il m'a dit, mais ça, c'est des frottis de col utérin, mais bizarre. C'est ça, mais qu'est-ce que tu as fait, Bitbol? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai écouté, monsieur, c'est en fait des frottis de cordes vocales. Il me dit, comment? Et grâce à lui qui m'a poussé, on a fait un énorme travail sur 100 patientes différentes, et il y a un parallélisme complet. Uniquement 30% de ces femmes ont une voix altérée avant les règles. Mais 70% n'ont pas de problème. Même au niveau des chanteuses, elles le sentent légèrement, c'est un peu plus lourd. Pour différentes raisons, pas seulement au niveau des cordes vocales, on chante également avec les muscles abdominaux, avec les muscles pelviens, et on sait bien que chez la femme, au moment des règles, il y a des problèmes.
Ça veut dire que il y a
une imprégnation hormonale au niveau des cordes vocales, avec des récepteurs hormonaux qui ont été découverts en 2001 par des collègues américains que je connais bien, et qui ont mis au point une des techniques pour voir ces récepteurs. Le travail, moi, j'avais entrepris dans les années 91-92, on trouvait pas de récepteurs, nos techniques n'étaient pas assez performantes à l'époque.
Et alors, pour les femmes qui nous écouteraient et qui sont concernées par cette altération des cordes vocales, juste avant leurs règles. Une fois qu'on a identifié le problème, il y a une solution pour
les traiter,
soigner
bien sûr,
sa
mais
voix.
Il faut juste mettre un bémol. C'est les femmes qui ne prennent pas de moyens contraceptifs, bien évidemment. Mmh. Car si on prend la pilule œstroprogestative, le taux d'œstrogène et de progestérone va être constant, voire un double. Mais ceux qui n'ont pas de traitement, donc des règles entre guillemets naturelles, sans influence extérieure par un stérilet qui est hormonal ou par des pilules, effectivement, à ce moment-là, il y a des traitements très simples qui sont de deux sortes. Premièrement, les minéraux, car il y a une perte de magnésium, une perte d'éléments au niveau minéraux de l'organisme. Et puis, deuxièmement, au niveau de la contracture et des l'œdème, c'est des comprimés à base qu'on appelle de la bromélaïne, qui sont à base d'ananas, en fait. Et on donne ça pendant 8 jours, 4 jours avant les règles, 4 jours pendant les règles, qui sont du magnésium, qui sont de la bromélaïne, qui sont éventuellement un antidouleur. Et également, moi je suis très friand de cela, c'est des infusions au thym avec une cuillère à soupe de miel qui leur permet de bien lubrifier les cordes vocales et d'éviter justement cette sécheresse buccopharyngée.
Donc le miel pour les cordes vocales, c'est pas une idée reçue ou un remède de grand-mère, ça marche vraiment.
Ça marche vraiment bien, mais pur comme ça, pas vraiment, mais avec du thym ou avec notamment également ce qu'on appelle les infusions à la mauve, qui est une vieille technique que j'ai lue dans un livre de Caruso du début du siècle, enfin du 20e siècle. Et effectivement, les infusions à la mauve marchent dans les laryngites un peu fortes, un peu agressives, un peu inflammatoires. On n'a pas besoin de donner un anti-inflammatoire, une infusion mauve 3 fois par jour pendant 2 jours suffit.
Vous allez nous expliquer le type d'opération que vous avez été amené à réaliser sur les cordes vocales dans votre carrière. Nous verrons aussi comment prendre soin de notre voix encore plus particulièrement. L'ORL et phoniatre Jean Habitbol donne de la voix cet après-midi sur France Inter et nous sommes tout ouïes.
Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is it nothing really matters? Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Bohemian Rhapsody, la voix de Queen sur France Inter.
Du vent dans les synapses.
Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je serai opéré des cordes vocales dans peu de temps. Il va falloir me supporter comme ça.
J'avais jamais réentendu ma voix. C'est vrai que c'est assez incroyable.
Alors, celle...
À cette époque, les médecins lui affirment qu'il ne pourra plus jamais chanter.
J'ai eu des idées noires, en effet, parce que moralement, c'était très très dur.
Voici les cordes vocales de Marc avant son opération. La corde à gauche sur l'écran a été paralysée, il ne pouvait pas former de son.
Alors qu'est-ce que j'ai fait comme opération ? J'ai injecté dans la corde vocale paralysée un produit qu'on appelle l'hydroxyapatite, qui permet de regalber la corde vocale. Faites un i.
Pendant plusieurs mois, il va devoir faire de la rééducation orthophonique pour réapprendre à se servir de ses cordes vocales.
J'ai presque retrouvé ma voix d'avant. On ne peut pas retrouver à 100% sa voix. J'ai retrouvé mon identité, j'ai retrouvé le moral. Et jamais je n'aurais cru, avec la voix que j'avais, rechanter un jour.
Dormez-vous.
Extrait d'un reportage où l'on entendait un patient que notre invité Jean Habitbol, ORL phoniatre, a opéré. De quoi souffrait-il ce patient, Jean Habitbol ?
Alors, il souffrait d'une paralysie de la corde vocale secondaire à un acte chirurgicale qui, hélas, dans 5% des cas, peut donner ça, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde. Et on paralyse à ce moment-là en touchant le nerf de la corde vocale. Et c'est pas une faute, c'est tout simplement que le nerf passe au niveau de la thyroïde elle-même et quelquefois il est presque ancré dans la thyroïde.
Oui. Il vous est arrivé que des personnes viennent vous voir pour modifier leur voix et que vous refusiez parce que justement, oui, vous pensiez que ça n'était,
oui,
pas une bonne chose.
Oui, c'est une histoire qui est dans le livre d'ailleurs, que j'ai rencontré très souvent, qui est l'histoire de cette avocate à la criminelle qui vient me voir et qui me dit « Bonjour docteur, voilà, je suis avocate à la criminelle, je fume un paquet de gitane par jour, j'ai un petit verre de whisky le soir, faut changer ma voix. » J'examine, elle avait ce qu'on appelle un édème des cordes vocales, c'est tout. Et je pose la question toute simple, est-ce que vous perdez vos procès ? Je dis pas du tout. Je perds pas tous mes procès, d'ailleurs, moi, les voyous sont mes copains. Moi, ma salle d'attente, c'est la prison. Je dis, pourquoi voulez-vous faire opérer ? Elle me dit, parce que j'ai un petit ami qui aime pas ma voix. Et je lui ai répondu, changez de petit ami, changez pas votre voix. Elle s'est fait opérer par un de mes collègues remarquablement bien, mais elle est venue avec une voix comme ça. Et quand je l'ai vue 6 mois après, sincèrement, je l'ai à peine reconnue, car telle est l'importance d'une voix. Et effectivement, elle m'a dit une phrase terrible, je suis devenu schizophrène de ma voix et mon petit ami m'a quitté. Ce qui veut dire que la voix elle-même, j'ai pas voulu l'opérer, car la voix, on doit être bien dans sa voix comme on est bien dans sa peau. Mmh. Et c'est ça le secret, c'est pour ça que je parle de la chirurgie de la corde vocale comme d'une chirurgie émotionnelle. On n'enlève pas un polype de la corde vocale comme on enlève l'appendicite. Enfin, ouais, l'appendice, plus exactement.
Dans quelle mesure on peut modifier sa voix sans passer par la chirurgie? Oui. Dans quelle mesure on peut agir, oui, sur sa voix?
Alors, aujourd'hui, d'une façon tout à fait simple, l'orthophonie, d'une part, va vous apprendre à mieux placer la voix. Pourquoi? Elle va vous apprendre à respirer, car on ne parle qu'en expirant, en soufflant. Ah, ouais. À Lambert, je peux pas parler. C'est très difficile. Donc, c'est l'harmonie entre la respiration, la vibration des cordes vocales et la mise en place de la caisse de résonance. Ça, c'est la force de l'orthophonie. Et aujourd'hui, grâce aux techniques qu'on a aujourd'hui d'orthophonie, il y a beaucoup de patients qu'on n'a plus besoin d'opérer. Par exemple, des femmes qui ont des petits nodules, c'est comme des petits boutons sur les cordes vocales. On en opère quoi, 2%? Avant, on en opérait 80%. C'est l'orthophonie qui a fait son travail, qui n'avait pas besoin, car c'était un forçage vocal. Et la deuxième chose, moi je le dis maintenant à beaucoup de mes patients, c'est des cours de chant. Car le cours de chant va libérer le côté cartésien, le côté de la raison de votre voix. Elle va vous faire passer du côté de l'affect. Et à ce moment-là, oui, vous mélangez l'affect et la raison et vous allez pouvoir avoir une voix qui va être en harmonie avec vous-même.
Alors, nous pouvons aussi transformer notre façon de parler. Vous parlez d'une mode, surtout qui a lieu aux États-Unis, plutôt chez les femmes, mais chez certains hommes aussi, le vocal fry.
Oui.
Alors, on va avoir un exemple. C'est la voix de Kim Kardashian, vedette de télé-réalité. C'est pas forcément très agréable à écouter, mais on sent bien qu'elle force sur sa voix. Qu'est-ce qu'elle fait exactement quand elle fait ça?
Alors, sur le plan technique, que se passe-t-il? Parce que j'en ai filmé quelques-unes pour comprendre. Parce qu'au départ, c'est pas évident. C'est un peu comme chez le ventriloque ou chez les chants tibétains. C'était pas évident. En fait, elle contracte ses cordes vocales, elle appuie sur un comme ça, et elle contracte ce qu'on appelle l'arrière des cordes vocales, qu'on appelle les aréthénoïdes, qui sont des éléments, des tout petits os, qui sont à peine 4-5 mm de haut, et qui permettent de fermer ou d'ouvrir les cordes vocales. Et elle les contracte tellement qu'après, elle parle comme une voix un peu souffrante, comme ça, et ça montre une certaine personnalité dans lequel on veut aller, dans lequel elle veut traduire quelque chose qui n'est pas habituel, style, écoutez-moi parce que j'ai un problème. Donc, quelque part, la voix est un bouclier par rapport aux autres.
Ça peut faire mal aux cordes vocales de faire ça?
Oui, si on le fait mal, ça fait mal. Ouais. Parce qu'il faut savoir le faire et savoir comment le faire. Et les gens qui ont l'habitude de malmener leur voix, les chanteurs de rock, savent comment le faire. Mais quelqu'un qui va s'amuser à faire ça va me faire des polypes des cordes vocales, des édèmes au niveau des cordes vocales, et va me créer une vraie pathologie avec une possibilité de véritable subluxation de la corde vocale, parce que n'oubliez pas que les cordes vocales, il y a des arthroses des cordes vocales, parce que ça se ferme, ça s'ouvre, donc il y a une articulation.
Et une subluxation, c'est quoi?
C'est-à-dire que la corde vocale se bloque à certains moments quand vous parlez, et puis vous avez plus de voix, et puis vous recommencez à parler, et puis ça se bloque tout seul. Et ça, c'est la corde vocale qui, comme une épaule, qui se débloque et ici qui se rebloque.
Et quand on chuchote, qu'est-ce qu'on fait avec les cordes vocales? On voit bien que la voix se transforme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on emploie cet instrument sans vraiment savoir comment il marche.
Oui. Alors, le chuchotement était une découverte qu'on a pu faire grâce à la technique de vidéofibroscopie par voie nasale, que j'ai eu la chance d'être un des premiers à mettre au point dans les années 84-85, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et chuchoter, quand vous avez la bouche ouverte en tirant la langue, en regardant, vous pouvez pas chuchoter. En mettant le fibroscope avec la vidéo et qu'on filme, la voix chuchotée, c'est une voix dans laquelle les cordes vocales ne se touchent pas. Et seul le souffle pulmonaire et le son que vous entendez, c'est la caisse de résonance qui se transforme et qui crée les voyelles. Et qui va créer, en fait, le son que vous entendez.
Mais si je vous mets à parler comme ça, c'est pas du chuchotement. À ce moment-là, c'est dangereux. Parce que là, vous faites, entre guillemets, une friction, exactement, des cordes vocales. Et en les chauffant comme ça, vous créez une vraie pathologie qu'on appelle la kérato, c'est la corde sur la corde vocale. Donc les gens qui s'amusent à chuchoter comme ça pour pas fatiguer leur voix, c'est encore pire. Vaut mieux qu'ils parlent doucement, sans forcer leur voix, ou alors sur le souffle. Et à ce moment-là, ça va. D'accord. Et ça, c'est le boulot de l'orthophoniste. Ouais, c'est un travail remarquable.
Ne jamais forcer en chuchotant, on abîme ses cordes vocales. Certains parviennent à transformer leur voix de façon bluffante. Je pense aux imitateurs, bien sûr. Certains ont même été étudiés par des scientifiques. C'est le cas de Laurent Gérard, comme il l'a raconté sur la RTBF.
C'est votre larynx qui est très bien ?
Ouais, c'est les cordes vocales qui sont asymétriques.
Ah oui, et le larynx,
il est très souple, il peut aller dans tous les sens. Oui. On peut tous changer sa voix. Sauf que moi, j'ai une perception qui est un peu plus pointue. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant...
Vous avez
étonnant,
une oreille, c'est ça que vous voulez dire,
oui, mais ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que si vous avez l'habitude, parce que vous faites des émissions de télévision, mais si dans le public, vous écoutez votre voix, vous n'allez pas la reconnaître. Mm-hmm. Donc nous, imitateurs, je crois qu'on a la capacité d'entendre quand même le résultat de ce que ça va produire. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que je me suis posé la question. J'ai demandé, parce que je suis cobaye pour le CNRS, ils font des recherches sur la voix et sur ma
voix.
Oui, c'est super intéressant.
On mais vous moi,
je
suis curieux.
Je fais des tests et c'est vrai qu'on s'est aperçu que j'avais une perception un petit peu différente.
Cordes vocales asymétriques, larynx souple, oreilles particulières, qu'est-ce qui fait vraiment la différence chez les imitateurs?
Alors, les imitateurs, j'ai eu la chance d'en filmer plus d'une quinzaine, facile. Des cordes vocales, dont Laurent Gérard d'ailleurs, ont des cordes vocales, ou Michael Gregorio, qui est absolument exceptionnel dans la voix chantée, ont des cordes vocales asymétriques. Donc ça leur permet, un peu comme un acrobate du larynx. Donc il peut jouer avec le larynx, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des mimiques qui vont avec, au niveau du visage. Mais comment il peut imiter? C'est exactement ce que nous venons d'entendre, de la part de Laurent Gérard. C'est-à-dire que quand lui il parle, il s'entend comme vous l'entendez. Et la résonance à l'intérieur de lui-même, il arrive à la fermer, à ne pas l'entendre. Et donc, il peut reproduire. Donc, c'est la voix qui est pilotée par l'oreille. Donc, l'oreille elle-même va piloter sa voix, d'une part. Et puis, la mimique, il va commencer à la transformer. Et on voit ça remarquablement bien chez Laurent Gérard ou chez Michael Gregorio, quand il chante, il passe de Piaf au Queens, qu'on a entendu tout à l'heure, d'une façon impressionnante, car immédiatement, il sait comment gérer la musculation de sa corde vocale et les cases de résonance ensemble.
Une chose que les imitateurs ne pourront jamais faire, c'est changer de corde vocale. Avec les ordinateurs, on peut faire des choses étonnantes. À l'IRCAM, par exemple, on pratique des greffes de cordes vocales auxquelles vous ne vous seriez jamais risqué, Jean Habitbol.
On peut modifier indépendamment donc ce qu'on appelle donc les vibrations des cordes vocales et les résonances du conduit vocal, ce qu'on appelle en traitement du signal donc la source d'un côté et le filtre de l'autre. Et donc on peut s'amuser, par exemple, à changer les cordes vocales d'un être humain en les remplaçant, par exemple, par celles d'un lion et les faire passer toujours à travers les résonances du conduit vocal. Ce qui va donner que la personne va parler avec la voix d'un lion. Je vais faire écouter la source, le lion. Un être humain, donc Sean Connery.
Once upon a midnight dreary.
Et donc là, on remplace, on va dire, on va couper la tête de Sean Connery, on lui laisse sa bouche, et puis on remplace ses cordes vocales par celles du lion. Et ça, c'est fait par une méthode qui s'appelle synthèse croisée.
Que pensez-vous, Jean Habitbol, du résultat synthétisé par ordinateur de cette greffe de cordes vocales de lion sur Sean Connery?
Alors, je connaissais pas. Je ne connaissais pas.
Nous aussi, on veut vous surprendre.
Je connaissais pas du tout. C'est intéressant, ça montre à quel point aujourd'hui on peut truquer, on peut tricher et comment on peut manipuler les choses.
Ouais.
Et on voit ça de plus en plus sur d'autres éléments, ce qu'ils appellent aujourd'hui les fake news, c'est-à-dire des choses qu'on considère comme vraies tant qu'on n'a pas la preuve. Et là, c'est bluffant, parce qu'on a, comme il le fait très bien les cordes vocales, mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette étude, c'est les gens qui ont perdu par un cancer du larynx, le larynx. On enregistre leur voix avant, c'était fait par l'IRCAM d'une part et par un chercheur remarquable de Bretagne et qui a eu l'idée d'enregistrer la voix avant qu'on enlève le larynx. Et après, lorsque cette personne parle avec une voix chuchotée, justement parce qu'il n'a plus de larynx, donc il n'a que les phonèmes pour parler, l'ordinateur va reconstituer sa propre voix. Malgré la perte de son larynx, oui, on a greffé des cordes vocales, à ce moment-là c'est passionnant, qui sont des cordes vocales sur ordinateur. Et on peut prendre un autre exemple que vous connaissez bien sûr, qui est Stephen Hawking. Ou qui ne pouvait pas parler pour la raison que vous savez, eh bien lui, il avait une tablette et il parlait grâce à cela. Alors pourquoi n'a-t-il pas pris la voix de Sean Connery ou la voix de George Clooney? Il aurait pu.
Mais c'est une opinion personnelle. Je pense qu'il a voulu garder cette voix qui était un peu celle des trous noirs, celle de l'astrophysique, cette voix qui semblait venir de l'espace, car changer cette voix qui est une voix d'ordinateur aurait changé sa signature.
Ouais. Dans votre livre, vous abordez la voix justement sous tous ses aspects, pas seulement scientifique, aussi théâtral, cinéma, politique. Vous dites d'ailleurs que le général de Gaulle est un cas d'école parce que au fur et à mesure de son histoire, sa voix a évolué.
Impressionnant. Parce que le général de Gaulle a rassemblé trois éléments différents en ce que j'ai pu écouter et analyser. Dans les années 40, c'était le général. C'était celui, pas encore, mais c'était celui qui allait combattre l'ennemi. Donc il avait cette voix protecteur, cette voix de la défense de la nation, avec une voix impérative de l'armée. Puis, France libérée, quand il arrive sur les Champs-Élysées. Il avait libéré, et à ce moment-là, c'est la voix qui n'est plus le protecteur, mais celui qui a libéré, la voix, quelque part, de celui qui redonne à la nation une possibilité d'espoir. Et puis arrive cette histoire incroyable de mai 68, où là, il parle à l'écran, on le voit, et on se dit, oui, d'accord, il est vieux, on l'écoute pas. Et puis l'idée de génie du général, c'est de passer à l'écran de télévision, mais l'écran est noir. Et on entend que sa voix. Et là, c'est la puissance de la voix du général qui donne l'aspect du père protecteur, mais attention, faut pas aller trop loin, et là, il faut arrêter. Et à ce moment-là, on écoute la puissance de la voix radiophonique, qui pour moi est beaucoup plus forte que la voix de la télévision.
On n'ira pas plus loin. Merci Jean Abitbol pour cette formidable conclusion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La belle histoire de la voix aux éditions De Beuck. En deuxième heure, nous irons à la découverte des arbres de nos régions avec un passionné, Georges Fetterman. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu scientifique de la semaine avec Mathieu Novak et Philippe Hénarejos.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici bas avec moi, pour te maintenir intact en état?
C'était assez de Magenta et merci à Pierre-Yves, De Rolin, Clément Vullier et Jérémy Guillon qui sont à la technique aujourd'hui.
Du vent dans les synapses, Daniel Fievé.
Autour de la table pour nous ébouriffer les neurones, Mathieu Novak de Science et Avenir et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a eu un gros bruit et puis une secousse très violente donc qui nous a secoués. Moi, j'étais en train de passer une porte, ça m'a poussé contre le mur. Les placards s'ouvrent, ce qui est à l'intérieur sort ou tombe, la pendule se décroche et c'est quand même assez impressionnant.
Le témoignage d'un habitant du Teil, en Ardèche, où la terre a tremblé lundi dernier. La secousse a été ressentie de Grenoble à Montpellier et a fait 4 blessés. Pourtant, la France n'est pas réputée pour être une zone dangereuse. Alors, est-ce un phénomène exceptionnel, Mathieu Novak?
Eh oui, des séismes en France, c'est possible. Alors, on l'oublie de temps en temps et voilà. Il faut qu'un événement comme ça nous le rappelle. Alors, c'est assez rare parce que, c'est pas très rare, mais la plupart ne sont pas ressentis. Des séismes comme celui-ci qui ont une magnitude de 5 ou plus depuis depuis le début des années 2000, on en compte à peine 6, c'est le 6e celui-là. Alors on peut s'étonner parce que si on se souvient de nos cours de géologie, on a plutôt le souvenir que la Terre tremble aux limites des plaques tectoniques. Vous vous souvenez des plaques, c'est ces espèces de morceaux de puzzle qui sont partout sur la Terre, qui bougent les uns par rapport aux autres. Et quand ils se cognent ou quand ils se frottent les uns contre les autres, eh ben ça fait de la friction et nous, on ressent un tremblement de terre.
Et nous, en France, on n'est pas sur une limite de plaques.
Non, on n'est pas sur une limite de plaques, mais on a quand même des traces d'anciennes collisions, de collisions qui ont donné naissance, par exemple, aux Pyrénées et aux Alpes, et ça crée un peu plus loin des failles. Alors les failles, c'est quoi? C'est un plan contre lequel vont se frotter deux blocs rocheux. Et donc des failles, on en a un certain nombre partout en France, et il existe une carte qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Transition écologique, de ce qu'on appelle le zonage sismique. Donc on y voit qu'il y a 37 départements qui sont recensés en France où il y a un risque sismique. En fait, un risque, ce qu'on voit sur cette carte, c'est les tremblements de terre qu'il y a eu. On ne sait pas prédire un tremblement de terre. Mais on a une échelle qui va de 1 à 5. Donc 5, c'est, il n'y en a pas en métropole, c'est dans les territoires outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique. En métropole, ça va jusqu'à 4, notamment dans les Pyrénées et le nord et le sud des Alpes. Alors là où ça s'est produit, on était à un niveau 3. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait jamais enregistré vraiment de séisme là-bas. On savait qu'il y en avait, on avait des traces au 18e, 19e siècle, mais pas récemment.
Alors qu'est-ce qu'on sait précisément de ce qui a provoqué ce séisme?
Alors on est encore en train de découvrir. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'est produit alors que les sismologues étaient en congrès à Biarritz. Et donc leur première réaction, c'était « c'est surprenant, mais c'est pas inattendu ». Alors pourquoi c'est pas inattendu? Parce qu'on sait que là-bas, il y a une faille, une de ces failles dont je vous parlais, la faille des Cévennes. Alors c'est une grande faille qui part de la région de Montpellier et qui remonte sur la bordure ouest de la vallée du Rhône. Elle est apparue il y a 40 millions d'années avec les Pyrénées et c'est resté une zone très très fragile. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat pour savoir si cette faille, elle est active ou non.
Alors on a la preuve cette fois que la faille des Cévennes est active?
Eh ben c'est pas si simple justement. Parce que c'est la faille des Cévennes, c'était un peu le coupable idéal. On avait ce gros trait sur la carte, on savait qu'elle était là, on savait pas si elle était active, donc c'était facile de dire « ah bah voilà, elle est active ». Mais non, parce que quand on regarde un peu plus près les enregistrements, on voit d'abord qu'il n'y a pas eu de micro-séisme avant. Et alors, ces micro-séismes, pour les grandes failles, c'est vraiment un critère important pour les géophysiciens.
Un critère annonciateur, voilà. Là, il n'y a pas eu ça.
Là, il y a eu vraiment à peine. Par rapport à la taille de la faille, c'est très très étrange. Ensuite, ils ont commencé à analyser les signaux sismiques, et ils ont vu que pour ce qu'on sait de ce type de faille, ça aurait dû être deux blocs qui coulissent l'un contre l'autre. Or, les traces des relevés sismiques montrent que là, c'est plutôt un qui monte sur l'autre. Ils se chevauchent. Du coup, il a fallu émettre une hypothèse. Peut-être que c'est pas cette faille-là, mais une faille à côté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que pour la première fois en France, on a fait appel à des images satellites. Ça se fait déjà dans d'autres pays, mais ça n'avait pas été encore fait chez nous. Alors, c'est très simple. On prend une photo d'avant et après le séisme, et on essaye de comparer les déformations du sol. Et grâce à ça, on a réussi à identifier très précisément la faille. Les résultats sont tombés jeudi soir. Et en fait, c'est une petite faille de 5 km qui est au sud de la commune de Tail. Et ça a permis de voir aussi en surface où est-ce que ça se passe. On a vu ce petit chevauchement sur la route. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une faille qui n'était pas connue pour être active. Alors qu'il y en avait d'autres à côté, oui. Donc aujourd'hui, on sait que c'est cette petite faille et que la rupture a eu lieu entre 3,5 et 1 km de profondeur.
Et les géophysiciens sont toujours sur le terrain à guetter les répliques.
Eh oui, parce que l'analyse, elle n'est pas terminée. Ils ont mis des capteurs un peu partout. Ils vont rester encore une quinzaine de jours en essayant de comprendre vraiment exactement ce qui s'est passé. Ils regardent les petites répliques. Ils savent pas s'il va y en avoir encore d'autres. Et à côté de ça, il y a aussi un appel à témoins. Si vous, auditeurs, vous avez été témoin de ce qui s'est passé, vous pouvez aller sur le site du Bureau central sismologique français. Et là, vous y trouverez un formulaire. Et entre vos impressions à vous et les relevés des sismologues sur le terrain, on arrivera à dresser finalement la carte d'identité de ce séisme.
Le lendemain, le mardi, un séisme plus faible, cette fois-ci magnitude 3, a secoué la ville de Strasbourg. Est-ce que les deux séismes, les deux événements étaient liés?
Non, il n'y a absolument aucun rapport. Mais alors, par contre, ce qui est amusant, c'est que le séisme de Strasbourg, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, on pense que c'est peut-être ce qu'on appelle un séisme induit. C'est-à-dire qu'il a été consécutif à des activités humaines. Là-bas, on fait de la géothermie. Alors, la géothermie, ça consiste à envoyer de l'eau froide dans des roches chaudes pour récupérer de l'eau chaude. Mais pour aller vraiment en profondeur, on fait ce qu'on appelle de la fracturation hydraulique. On envoie de l'eau vraiment sous pression, ça fait éclater la roche et ça crée des instabilités. Et à la suite de ça, ça peut réveiller certaines failles et peut-être que c'est un séisme induit.
Enfin, l'entreprise que l'on soupçonne d'être à l'origine du séisme,
elle nie complètement, elle dit que parce qu'il n'y avait pas d'activité depuis 3 jours, mais c'est une possibilité. Et c'est une possibilité qui aussi, par nos confrères du Point, a été révélée, que c'est aussi peut-être une hypothèse du travail pour le séisme de Montélimar, parce qu'il y a une petite carrière juste au-dessus. Ouais. C'est vraiment une hypothèse de travail, mais peut-être que l'humain n'y est pas pour rien.
Ouais. Même pour Montélimar, ça pourrait
ça
avoir...
Ouais, mais vraiment, là, on est encore... il faut suivre l'actualité.
Très hypothétique, mais voilà, tout ça est une enquête qui se joue en temps réel.
Le directeur de l'observatoire, s'il vous plaît.
C'est vous, c'est moi.
Ah bon, j'ai une communication très importante, monsieur.
Oui, silence, mon, voyons, ne troublez pas mon collaborateur. Il est plongé dans des calculs très compliqués, il faut comprendre aussi.
Ah oui, pardon, je m'excuse, je voulais simplement vous dire...
Oui, bien, tout à l'heure. Bon. En attendant, si vous voulez jeter un coup d'œil par notre télescope électronique, ne vous gênez pas, mon bon, le spectacle en vaut la peine.
Extrait d'une adaptation radiophonique de Tintin et l'étoile mystérieuse, Philippe Hénarejos. Un mystère vient d'être élucidé au sujet d'une étoile en passe d'être expulsée de notre galaxie.
Oui, le 12 novembre, un groupe d'astronomes américains et anglais ont annoncé la découverte d'une étoile qui se déplace à 6 millions de kilomètres à l'heure. Et à cette vitesse-là, elle est en train d'échapper à la Voie lactée. Alors vous le savez, la Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est un ensemble d'environ 200 milliards d'étoiles qui a la forme d'un disque avec des belles spirales dessinées par toutes ces étoiles. Et cette étoile donc, qui a été appelée S5HVS1, les astronomes ne sont pas des poètes, faisait partie donc de la Voie lactée. Elle en fait toujours partie, elle n'est pas très loin, elle est à 25 000 années-lumière, c'est encore dans la Voie lactée. Et comme toutes les autres, elle restait là, dans la Voie lactée, par le fait de l'attraction gravitationnelle de l'ensemble de la galaxie. Mais elle a été flashée à 6 millions de kilomètres à l'heure, et il ne fait aucun doute qu'elle est en train, à cause de cette vitesse, de vaincre aisément l'attraction de la galaxie et qu'elle va se perdre dans l'espace intergalactique.
Elle va tellement vite qu'un jour ou l'autre, enfin dans quelques millions d'années, elle sortira de notre galaxie.
Elle est en chemin et rien ne pourra l'arrêter. Ouais. Alors la question naturellement a été, mais qu'est-ce qui a bien pu propulser cette étoile de la sorte? Il faut savoir qu'elle va 10 fois plus vite que les étoiles les plus rapides de la galaxie. Eh bien, le cas de S5, je vais l'appeler comme ça, est intéressant car grâce aux données du satellite européen Gaïa, qui observe très précisément la position des étoiles, et aux observations du télescope anglo-australien de 3,9 m qui se trouve en Australie, les astronomes ont pu remonter sa trajectoire et elle démarre exactement à l'endroit où se trouve Sagittarius A étoile, qui n'est autre que le trou noir hypermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée.
Ce serait donc ce trou noir hypermassif qui aurait éjecté cette étoile.
C'est exactement cela. L'hypothèse n'est pas nouvelle. Il existe une poignée d'autres étoiles qui, comme S5, sont en train de s'échapper dans l'espace. Ça, on le sait depuis plusieurs années. Il y a quelques hypothèses pour expliquer leur accélération. Par exemple, des explosions de supernova ou des collisions d'étoiles. Et aussi, il y avait l'idée qu'un trou noir pouvait être à l'origine de leur accélération formidable. Sauf que jusqu'à présent, il n'y avait pas de preuves. Si vous voulez, c'était des hypothèses. Alors, c'est chose faite parce que le fait que cette étoile provienne de la position du trou noir central indique que c'est lui qui l'a propulsé ainsi.
Et comment il s'y est pris, ce trou noir, pour propulser cette étoile?
Alors, le plus simplement du monde, par sa force de gravitation. Vous savez, les agences spatiales utilisent cette force quand ils font passer leur sonde spatiale près des planètes. Si l'on choisit la bonne trajectoire, l'attraction de la planète dévie et accélère la sonde quand elle passe à côté. On appelle cela l'effet de fronde gravitationnelle. Et c'est exactement ce qui permet d'accélérer les sondes pour les envoyer, par exemple, vers les planètes géantes qui sont assez loin du Soleil. L'étoile S5 a fait la même manœuvre, alors de manière tout à fait naturelle, personne ne l'a envoyée près du trou noir, c'est le hasard qui a fait qu'elle est passée là. Mais en passant très près du trou noir, du coup, celui-ci a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil, donc vous imaginez, la fronde est quand même beaucoup plus costaud. C'est une fronde très puissante et donc il y a 5 millions d'années environ, S5, qui était alors sans doute lié à une autre étoile au passage, est passé au ras du trou noir. Dans l'affaire, l'étoile qui l'accompagnait a été aspirée par le trou noir et elle s'est retrouvée propulsée vers l'espace infini. Alors elle est encore chez nous, mais elle s'en va, c'est sûr.
Et elle ne fera plus partie de notre galaxie dans combien de temps ?
Allez, je vous donne quelques millions d'années, peut-être 10 millions d'années, elle commencera à être seule, isolée dans l'espace intergalactique.
Mais c'est fréquent ça? Enfin, il y a beaucoup d'étoiles solitaires n'appartenant à aucune galaxie qui se baladent dans l'espace intergalactique?
On en connaît. On voit des nuées comme ça qui ont été expulsées de galaxies par d'autres mécanismes. Parfois, c'est des collisions de galaxies. On sait qu'elles sont là, mais comme elles sont loin, individuellement, elles sont très faible, donc très difficile à détecter. Là, on l'apprend alors qu'elle est encore là, ouais. Elle n'est pas partie. Hein.
Ouais, ouais.
Quand elle sera loin, si on voulait la découvrir à ce moment-là, elle ne brillerait pas assez quasiment pour qu'on puisse identifier qu'elle faisait naguère partie de la Voie lactée.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Mathieu Novak, des perroquets qui gaspillent ?
Eh oui, on pensait que c'était les humains les champions du gaspillage alimentaire, mais surprise, de nombreux perroquets le pratiquent aussi. Alors, ce sont des chercheurs espagnols qui ont étudié 103 espèces dans 17 pays de perroquets, et qu'est-ce qu'ils voient ? C'est que tous, sans exception, ils prennent la nourriture, ils en mangent un peu, enfin un peu beaucoup, les trois quarts, et puis ils le jettent nonchalamment. Ils ont même vu qu'il y en a certains qui semblent juste jouer avec la nourriture et puis ils la balancent.
Eh ben bravo.
Et alors comment ça se fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de plus avoir rien à manger après ? Alors ils sont allés voir ça de plus près, et ils ont vu qu'ils le font moins en période de reproduction, quand il y a plus de besoins énergétiques et qu'il faut nourrir les petits, mais ils ont vu quand même qu'ils ont tendance à gaspiller des fruits quand ils sont pas assez mûrs. Alors quel est l'intérêt ? Eh ben ils ont bien compris que quand ils enlèvent ces fruits qui sont pas assez mûrs, il y a plus de lumière qui arrive sur la plante, plus de ressources pour les autres fruits, et ils se retrouvent avec d'autres fruits qui sont meilleurs et qui sont plus mûrs. Mmh. Et c'est pas la seule surprise, c'est que ça profite aussi aux autres petits animaux qui sont en bas, qui auraient pas pu monter, qui auraient pas pu croquer. Et eux, ils vont prendre ces fruits, prendre les graines, les emmener ailleurs, ça va germer ailleurs, et du coup, nos perroquets, ils vont avoir davantage de ressources alimentaires.
Bon, bref, ils gaspillent beaucoup plus intelligemment que nous.
Ils ont une idée derrière la thèse.
Ces perroquets. Philippe Hénarejos, des nouvelles de Mars ?
Oui, sur Mars, vous savez, il y avait le mystère du méthane, qui était détecté épisodiquement par le robot Curiosity, mais qui n'était pas vu par les autres sondes. Et bien maintenant, il faut ajouter celui de l'oxygène. C'est toujours Curiosity qui est en première ligne, car en 3 années martiennes, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 6 ans sur Terre, le robot a détecté une augmentation et une diminution de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère supérieure à ce qui était attendu. Alors, normalement, avec une condensation d'une partie du CO2 qui représente quand même 95% de l'atmosphère martienne, au cours de l'hiver austral, on enregistre par simple conséquence une augmentation de la part des autres gaz qui sont minoritaires. Alors, cela marche pour tous, sauf pour le méthane et maintenant aussi pour l'oxygène, au point qu'on se demande s'il n'y a pas un mécanisme qui relâche de l'oxygène et un autre qui l'absorbe. Alors, l'oxygène et le méthane, évidemment, font penser à la vie.
Mais je parie qu'il ne faut pas s'emballer comme à chaque fois.
Il ne faut pas s'emballer. Ouais. Sur Mars, c'est une planète minérale. D'autres processus peuvent intervenir, notamment géologiques. Bref, l'enquête commence. Et nous en faisons d'ailleurs le récit détaillé et passionnant dans un article qui est à lire sur le site de cielespace.fr.
Ciel et Espace, le magazine, vient de sortir hier avec en couverture.
En couverture. Un dossier sur les premières galaxies de l'univers qu'on commence à voir grâce à des nouvelles méthodes d'observation. Vous avez 20 pages là-dessus, c'est délirant.
Mathieu Novak, hashtag science pour Science et Avenir, le magazine jeune de Science et Avenir.
Oui, si vous voulez que vos enfants décrochent de leurs jeux vidéo, notre nouveau numéro parle du futur des jeux vidéo pour les jeunes.
Très bien, merci à tous les deux, Philippe Hénarejos et Mathieu Novak. En deuxième heure, nous allons partir en balade à la découverte des arbres de nos régions, en compagnie de Georges Fetterman, président de l'association Arbre. Il va nous parler de quelques spécimens remarquables et nous évoquerons aussi les découvertes récentes faites au sujet de ces êtres vivants immobiles aux capacités insoupçonnées.
Like, this is what your life like, try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light, Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight fight. Pressing on the gas, supernova for a nightlight. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on the text though, nothing else next though. Not another word, letter, picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close who could get you like off your. I be on my, I woke up this morning, I said my prayers, I'm all
feel good, I try to talk to my dad. Get him some advice, he starts spazzing on me. I start spazzing back, he said, that ain't Christ-like. I said, ah!
C'était Follow Go de Kanye West sur France Inter. Et juste après le flash, nous partons en balade à la découverte des arbres de France et de leur capacité insoupçonnée. À tout de suite!